France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est un peu un jour sans fin à l'Assemblée où le projet de budget de l'État sera de nouveau examiné à partir d'aujourd'hui dans sa version initiale, laquelle contient de très nombreux points de friction entre forces politiques, ce qui devrait évidemment nourrir d'intenses débats, mais plus encore les doutes quant à la possibilité même de parvenir à un compromis. Avec notre invité aujourd'hui, nous parlerons des associations d'aide aux exilés qui s'alarment du transfert de leur financement vers des politiques de contrôle migratoire. L'actualité à l'étranger, c'est tout d'abord la mobilisation toujours encore des alliés européens de l'Ukraine pour contrer les velléités néo-impérialistes de la Russie. On parlera également du risque de la persistance des présidents à vie. Plusieurs élections en ce moment même sur le continent africain viennent illustrer ce mythe de l'homme fort, et notamment au Cameroun avec Paul Biya, le doyen des chefs d'État de la planète. Enfin, on se rendra aux États-Unis après un vaste coup de filet hier contre des jeux d'argent illégaux. Après que la commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté cette semaine la partie recette du projet de loi de finances, difficile de croire que les discussions entre députés qui s'engageront à partir d'aujourd'hui en séance plénière, cette fois-ci, pourraient conduire à une autre issue possible. La bataille débutera, quoi qu'il en soit, dès 15h dans l'arène de l'hémicycle. Le Premier ministre commencera par présenter lui-même les orientations du gouvernement. Sébastien Lecornu, qui veut encore y croire et invite d'ores et déjà chacun à trouver les voies d'un compromis. Sauf que c'est justement l'inflexibilité, sinon l'obstination dont a fait preuve jusqu'à présent le camp macroniste, qui irrite aujourd'hui les oppositions au point que certaines le soupçonnent même de vouloir éventuellement passer en force par voie d'ordonnance. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
On l'aura compris, il sera a priori difficile pour les députés de trouver un chemin commun sur la partie recette, comme les y a invité le Premier ministre. Malgré tout, le gouvernement s'est engagé cette fois-ci à ne pas utiliser l'arme constitutionnelle du 49-3. Dans quelle mesure, Stéphane, cette concession faite au Parlement donc est-elle susceptible de changer ou non la nature des débats?
Ça change beaucoup de choses, car c'est le 49-3 qui a permis de faire adopter toutes les lois de finances depuis 2022, depuis que le pouvoir exécutif ne dispose plus de majorité à l'Assemblée. Le 49-3 ne conduit pas à l'adoption d'un texte sans vote, contrairement à ce qui est dit bien souvent. Il y a bel et bien un vote, mais qui porte sur l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Le 49-3, c'est un peu comme au poker. Quand un joueur fait tapis, il met tout ce qu'il a sur la table. S'il gagne, il remporte la mise. S'il perd, il perd tout et il sort du jeu. Eh bien, c'est pareil pour le gouvernement avec le 49-3. Il fait tapis, car le 49-3 offre la possibilité pour les députés de déposer une motion de censure qui, si elle est adoptée, permet à la fois de rejeter le texte de loi et de renverser le gouvernement. Seulement derrière, ça peut conduire à une dissolution que peut décider le président de la République et donc à des législatives anticipées. C'est la raison pour laquelle bien souvent les députés, par peur de retourner devant les électeurs, hésitent à la voter et à renverser le gouvernement. Et c'est en cela que le 49-3 est un outil puissant. La conséquence, il n'y a plus de 49-3, est qu'on devrait assister à une présence accrue des députés de toutes les forces politiques présentes à l'Assemblée. Car tous les groupes vont tenter de faire adopter des dispositions et des amendements auxquels ils tiennent, en passant des alliances avec d'autres groupes, en négociant un vote contre un autre vote pour obtenir des victoires politiques. Le risque est qu'on se retrouve avec un budget sans queue ni tête, sans aucune cohérence, avec des dispositions qui vont dans tous les sens et surtout avec une explosion des dépenses et de la dette, car il est toujours plus facile de faire accepter des mesures dépensières qui plaisent aux électeurs que de faire voter des économies budgétaires.
Merci Stéphane Robert. Alors l'objectif de tous ces débats, on le rappelle, est de parvenir à trouver une trentaine de milliards d'euros d'économies. Le projet de budget prévoit pour cela de supprimer notamment une vingtaine de niches fiscales jugées obsolètes ou inefficaces parmi les 474 existantes pour un gain d'environ 5 milliards. Mais ce sont surtout les mesures de justice fiscale qui cristallisent l'essentiel des tensions. Le camp présidentiel, la droite et l'extrême droite y sont très majoritairement défavorables, quand les groupes de gauche, eux, ont proposé une myriade de propositions ciblant les au patrimoine. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'une des rares mesures transpartisane aujourd'hui concerne la réforme du pacte Dutreil. Il s'agirait notamment de limiter les exonérations excessives sur les transmissions d'entreprises.
Trois amendements adoptés sur un sujet fiscal, fait assez rare pour être souligné dans un débat en commission des finances souvent heurté. C'est que le pacte Dutreil est de plus en plus décrié. Il a été mis en place en 2003 par Jean-Pierre Raffarin. Il devait permettre aux entreprises familiales de rester dans la famille en les exonérant jusqu'à 75% des impôts de succession. En échange, les héritiers devaient conserver l'entreprise au moins 4 ans. Problème, les effets économiques de ce pacte n'ont jamais été évalués correctement. Jusqu'à l'année dernière, moment où la Cour des comptes alerte, ce n'est pas 500 millions d'euros de manque à gagner pour l'État, comme on le pensait, mais 4 milliards au moins. Et dans un nouveau rapport, apparaître que nos confrères du Monde ont pu consulter, la rue Cambon enfonce le clou. Efficience économique faible, règles exagérément favorables et un coût multiplié par 4 en 5 ans. Les plus riches se sont emparés du pacte Dutreil pour optimiser leur fiscalité. Les deux tiers des montants exonérés bénéficient à 1% des héritiers seulement, loin, très loin de la cible initiale, les PME familiales. Cette semaine, les députés ont donc soutenu le Modem pour plafonner l'âge des héritiers, le groupe Lyot pour porter à 6 ans la durée obligatoire de détention de l'entreprise après une transmission, et même les communistes pour exclure les holdings du dispositif quand elles concentrent des biens personnels et non professionnels. Le ministre des PME, Serge Papin, a reconnu la semaine dernière des abus manifestes. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, promettait, elle, durant son audition à l'Assemblée, un débat parlementaire à ce sujet. Nous y sommes.
Merci Valentin Gris.
Et c'est donc en pleine discussion budgétaire que Moody's rendra ce soir son jugement sur la note souveraine de la France.
Et à l'instar de ses trois principales concurrentes qui l'ont déjà abaissé d'un cran, l'agence de notation devrait à son tour se prononcer pour une rétrogradation ou à tout le moins un abaissement de perspective, compte tenu tout d'abord de l'instabilité politique qui depuis la dissolution pèse donc sur les finances publiques, mais aussi de la détérioration des possibilités de croissance de l'économie française. Et puis c'est encore dans ce contexte que l'INSEE nous apprend, elle, de façon tout à fait inattendu que l'indice de confiance des ménages a augmenté en octobre. Selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée ce matin, l'indicateur gagne 2 points de plus que le mois dernier. La part des ménages qui jugent opportun d'épargner atteint même un plus haut historique. Ils seraient également plus optimistes concernant leur situation financière future. Enfin, autre raison de se réjouir en ce mois d'octobre, la croissance de l'activité économique de la zone euro est au plus haut depuis 17 mois.
Et pendant ce temps, c'est plutôt le pessimisme qui gagne les associations affectées par les coupes budgétaires.
Oui, quand les crédits alloués par l'État ne sont pas tout simplement stoppés ou réduits, ce sont les subventions de collectivités locales qui disparaissent. Et c'est ainsi que dans une tribune publiée cette semaine dans le journal Le Monde, un collectif de présidents d'associations alerte sur cette politique de rétractation brutale, parfois même d'ailleurs sans explication. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-François Corti, médecin, chercheur associé à l'IRIS et président de Médecins du Monde France. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Aux côtés de plusieurs autres associations dédiées, en l'occurrence à l'accueil des personnes exilées et à la défense de leurs droits, vous avez donc signé cette tribune parue mercredi pour dénoncer l'effondrement des financements publics consacrés à ces questions. Est-ce que l'on peut chiffrer tout d'abord l'ampleur de ces coupes et surtout comment est-ce que cela se traduit concrètement ?
Oui, on tire la sonnette d'alarme parce que on est dans un contexte de coupes budgétaires qui impactent des acteurs de la société civile que sont les associations, qui jouent un rôle de lien social important dans notre société et d'ailleurs dans un contexte de démembrement progressif de l'aide internationale, vous savez, avec la fermeture de notamment l'USAID américaine et les coupes de l'aide publique au développement en Europe qui concernent aussi la France. Donc on alerte sur le fait que pour les associations françaises, et notamment celles qui interviennent dans le champ de la santé, que ce soit pour les exilés ou pour les Français, on va dire, il y a des baisses qui nous mettent en difficulté, qui rendent le travail d'association impossible, et ce sont des impacts importants pour les patients tout d'abord. Ayez en tête que près de 70% des personnes exilées qu'on reçoit dans les centres de santé en France sont victimes de violences liées aux migrations souvent faites d'embûches, de mortalité importante. C'est une personne sur cinq qui a un trouble psychique sévère, à titre de psychotrauma par exemple, ou dépression. Donc ces coupes qui sont souvent brutales, sans explication, du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et d'ailleurs, on peut se poser la question d'un grand absent qui est le ministère de la Santé, qu'on ne voit pas sur ces enjeux-là et qui ne donne chaque fois aucun avis sur ces questions qui sont pourtant éminemment médicales, eh bien, il y a un impact très fort sur les populations qui en sont bénéficiaires et sur les organisations dont certaines sont en train de fermer par manque de financement.
Vous l'avez évoqué d'un mot, vous mettez effectivement en relation ces coupes aux structures de soins avec le renforcement des budgets alloués au contrôle migratoire. Selon vous, il s'agit d'un même mouvement, autrement dit, on dépouillerait les structures d'accueil et de soins pour consolider des politiques répressives.
Le problème, ce n'est pas un manque de financement. On a pu identifier que, par exemple, il y a près de 150 millions d'euros qui sont utilisés chaque année pour démanteler des campements, par exemple, si on parle de certains bidonvilles. On sait qu'il y a près d'un milliard d'euros qui a été dépensé depuis 20 ans pour essayer d'empêcher les passages, notamment dans la Manche, entre la France et l'Angleterre. Et on sait que ces budgets-là pourraient permettre de financer des centaines de centres de santé. Donc l'enjeu, il est politique, en fait. Et ce que l'on dénonce, c'est pas d'avoir une gestion migratoire légitime des États, dont celui de la France, c'est le fait de s'attaquer aux structures associatives qui travaillent sur la santé pour créer les conditions d'une situation défavorable aux personnes qui sont sur notre territoire.
Vous avez des mots extrêmement durs. Vous insistez pour dire dans cette tribune donc que toutes ces coupes budgétaires ne relèvent pas d'ajustements techniques, mais d'un choix politique délibéré, celui d'une mise à mort méthodique des structures de soins et de solidarité, une insulte à l'intelligence collective. Comment expliquez-vous que les conditions politiques permettent aujourd'hui un tel désengagement de l'État ?
Mais il y a un choix stratégique et politique que j'étais en train d'évoquer et que vous reprenez de manière tout à fait claire, qui consiste à dire, pour créer les conditions d'une vie défavorable aux exilés sur notre territoire, on va s'attaquer à tous les acteurs qui essayent d'assurer leur survie, notamment au travers des soins. Donc c'est un choix qui s'oriente plutôt vers la répression contre des structures de soins qui sont censées assurer un minimum, et c'est ça, d'une certaine manière, qu'on dénonce, parce que c'est non seulement un non-sens médical, ces patients qui ont des troubles marqués, comme je vous l'ai évoqué, vont se chroniciser et vont être dans des logiques d'insertion beaucoup plus difficiles, d'isolement, de rupture sociale, du fait de ces pathologies qui ne sont pas prises en charge. Donc d'un point de vue santé publique et d'un point de vue médical individuel, c'est une erreur d'empêcher ces patients d'être soignés parce que ça leur limite la capacité d'insertion. Et puis ensuite, c'est des associations qui sont mises à mal, qui sont encore une fois, comme je l'ai évoqué, souvent des acteurs qui, par délégation de services publics, font le travail que l'État ne veut pas faire, et ça impacte toute la société. On sait que plus les inégalités en santé sont importantes dans une société, plus l'état global de santé sera mauvais. Donc c'est bon pour tout le monde que les structures associatives, notamment, et les structures de soins aient des moyens. Et simplement, pour terminer, on voit que cette tendance-là à la répression beaucoup plus marquée, elle se fait sous influence d'un populisme. On le voit aux États-Unis avec Trump qui sabote, comme je l'ai évoqué, la solidarité internationale, la baisse des aides publiques au développement en Europe. Et donc, s'attaquer à ces acteurs de société civile que sont les ONG, c'est remettre en question toute une dynamique démocratique qui, de notre point de vue, doit être dénoncée. Les associations, aujourd'hui, elles payent un lourd tribut de la baisse des financements et cela se fait aux dépens de l'intérêt général.
C'est bien compris. Merci Jean-François Corti, président, donc je le rappelle, de Médecins du Monde France, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Midi et 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Après les sanctions décidées par les États-Unis et l'Union européenne contre l'agresseur russe, nouvelle démonstration de force des alliés de l'Ukraine. Aujourd'hui, la coalition des volontaires se réunira cet après-midi à Londres présence du président Volodymyr Zelensky pour discuter de nouvelles livraisons d'armes de longue portée et pour financer ce don à la défense ukrainienne. Le premier ministre britannique Keir Starmer devrait appeler ses partenaires à achever le travail concernant l'utilisation des avoirs russes immobilisés suite aux sanctions décidées par les Occidentaux. Car si les dirigeants des 27 réunis hier à Bruxelles ont certes effectué un premier pas, disons prudent en ce sens, plusieurs pays de l'UE expriment encore des réserves quant à la saisie pure et simple de ses avoirs, et parmi les États les plus réticents, on trouve notamment la Belgique, où se trouve en réalité l'essentiel de ses fonds. Les précisions depuis Bruxelles de notre correspondant Fabien Cazot.
La grande majorité des avoirs russes gelés en Europe, environ 200 milliards d'euros, se trouvent aujourd'hui domiciliés dans une société financière belge dénommée Euroclear. Ce sont surtout les représailles russes en cas d'utilisation de ces avoirs pour soutenir l'Ukraine que craint la Belgique. Le soutien à Kiev, d'accord, précise le Premier ministre Bart De Wever, mais à condition que les 27 ne laissent pas son pays en première ligne face à la Russie de Vladimir Poutine.
Il nous faut une mutualisation des risques, parce qu'on risque que la Russie va lancer des recours pour des dizaines de milliards d'euros, même des centaines de milliards d'euros. C'est dangereux. Il y a des autres pays où il y a aussi des avoirs gelés qui n'ont jamais parlé là-dessus. Donc il me faut de la transparence, qui a combien. Et si on bouge tous ensemble. Sinon, on risque que la vengeance russe va se focaliser sur la Belgique. Et la vengeance peut être très concrète. Ils peuvent saisir des entreprises belges en Russie. Les Russes, ils vont réagir.
Le Premier ministre belge demande à ses partenaires européens des clarifications sur les fondements juridiques du prêt de réparation envisagé pour l'Ukraine, soulignant qu'un tel dispositif financier n'a jamais été imaginé, même pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le président brésilien Lula a fini par lever hier un mystère qui n'en était plus tout à fait un.
Il sera bel et bien candidat à sa réélection pour un quatrième mandat l'an prochain. Celui qui fêtera lundi ses 80 ans s'affiche désormais en défenseur de la souveraineté nationale face à la crise diplomatique et commerciale ouverte par les États-Unis. Puis cette officialisation survient à un moment plutôt favorable pour le champion de la gauche après que le camp conservateur se retrouve sans candidat désigné depuis la condamnation de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Guetté par l'usure du pouvoir alors même qu'il entend lui briguer un cinquième mandat consécutif, Viktor Orban avait choisi hier de compter ses forces. À 6 mois des élections législatives, le Premier ministre nationaliste organisait un grand rassemblement dans la capitale le jour de la fête nationale, un cortège concurrencé toutefois par une autre marche, celle des troupes du chef de l'opposition, cette fois-ci le conservateur Peter Maillard, lequel a décidé de faire campagne contre ce qu'il appelle l'élite politique corrompue du pays.
Lui est le présidentiable qu'on n'attendait pas ou plus au Cameroun.
Lui, c'est Issa Tchiroma Bakary, surnommé non sans ironie le bon diable par ses partisans, bien déterminés à mettre fin au règne de Paul Biya, 92 ans, dont 43 passés à la tête du pays. Il s'est autoproclamé la semaine dernière vainqueur de l'élection présidentielle. Alors la publication officielle des résultats était attendue hier. Elle a finalement été repoussée à lundi, de quoi forcément Virginie Pironon raviver les crispations politiques.
Oui, la date de proclamation des résultats définitifs a été plusieurs fois décalée, suscitant à chaque fois une immense déception. 2 jours seulement après le vote, Issa Tchiroma, ancien ministre passé à l'opposition, qui selon les observateurs a fait une très bonne campagne, revendiquait la victoire avec environ 53% des voix contre 35% pour le président sortant, Paul Biya. Exactement l'inverse en fait des chiffres provisoires donnés par les autorités le 20 octobre, qui donnent donc Paul Biya, 92 ans, vainqueur. Son parti a dénoncé un grotesque canular de la part de l'opposition, disant attendre sereinement les résultats officiels. Depuis la semaine dernière, les partisans d'Issa Tchiroma manifestent pour revendiquer la victoire. À Garoua, le fief de l'opposant, la jeunesse est tous les jours dans la rue, multipliant les affrontements avec les forces de l'ordre. Des mouvements observés également à Douala, le port du Sud, jusqu'à la capitale Yaoundé. Jusqu'à présent, le gouvernement jouait l'apaisement. Paul Biya aurait même tendu la main à son adversaire, lui proposant, selon Jeune Afrique, un poste de Premier ministre, aussitôt refusé. Mais la situation pourrait se tendre. Depuis 2 jours, les rassemblements publics et la circulation des mototaxis dans plusieurs villes du pays ont été interdits. Le pays retient son souffle. La proclamation des résultats officiels doit avoir lieu lundi à 11h.
Et c'est dans un climat politique, là encore, extrêmement tendu que se tiendront demain des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Le président sortant Alassane Ouattara, à la tête du pays depuis 2011, est le grand favori. L'opposition dénonce pour sa part l'exclusion de ses deux principaux leaders, parmi lesquels l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, dont la candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, et appelle à manifester contre ce qu'elle qualifie de braquage électoral.
Enfin, quand un vaste système d'arnaque vient jeter une ombre sur l'intégrité de plusieurs matchs de la Ligue professionnelle de basket aux États-Unis.
Oui, plusieurs joueurs et entraîneurs de NBA se retrouvent dans la tourmente, accusés d'avoir participé à des parties de poker truquées et autres paris en ligne frauduleux. Plus d'une trentaine de personnes au total ont été inculpées hier dans ces deux affaires. Explication depuis les États-Unis de notre envoyée spéciale Isabelle Labéry.
Il y a d'abord les parties de poker truquées organisées par des familles mafieuses de New York. Les membres de la NBA, comme l'entraîneur de Portland, de Chauncey Billups, se servaient de leur statut de star pour attirer les victimes. À la table de jeu, des machines à mélanger trafiquées, des plateaux truffés de micro-caméras et des joueurs équipés de lentilles capables de lire des marques invisibles à l'œil nu. Le montant total de ces gains illicites atteint 7 millions de dollars. Le dossier des paris, lui, implique au moins 3 joueurs ou ex-joueurs de NBA, comme Terry Rozier, le meneur des Charlotte Hornets. Le 23 mars 2023, il fait savoir à quelques proches qu'il va sortir du match avant la fin, pour blessure. Le groupe mise plus de 200 000 dollars sur ses statistiques personnelles. Après seulement 9 minutes, Rozier quitte le parquet. Les paris sur sa sortie anticipée génèrent des dizaines de milliers de dollars de bénéfices. C'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Cette double affaire porte un coup dur à la réputation de la NBA en pleine semaine d'ouverture de saison.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Changeant sur la plupart des régions, alternance d'éclaircies et de nuages pouvant donner des averses éparses. Le sud-est profitera en revanche d'un soleil plus généreux. Enfin, plus aucun département ne se trouve désormais en vigilance orange du fait de la tempête Benjamin. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Fabien Etchecopard. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.